France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Les plumes sont l'une des innovations les plus impressionnantes de l'évolution, mais que sait-on vraiment de leur histoire et de leur diversité? On fait aujourd'hui un vol plané dans cette histoire évolutive. Il a fallu pas moins d'une centaine de millions d'années d'évolution pour que les plumes deviennent l'une des caractéristiques des oiseaux et qu'elles leur permettent de voler. Mais avant cet envol, à quoi servaient-elles et qui de l'oiseau ou de la plume est apparu en premier? Cette énigme a fait l'objet d'un débat houleux qui a duré pas loin d'un siècle et qui nous a conduit à repenser l'image des dinosaures et avec elle les fonctions des plumes. On part aujourd'hui à la recherche de ces premières plumes et on essaie de comprendre comment le grand bricolage de l'évolution en a fait le signe distinctif des oiseaux. Évolution, mon truc en plume. Et pour parler de ce sujet léger comme l'air, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Antoine Louchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-ornithologue au CNRS au sein du laboratoire de géologie de Lyon et nous sommes également en ligne avec Pascal Godefroy. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez évidemment, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @ScienceCQFD. On a sans doute tous et toutes au moins déjà une fois ramassé une plume tombée par terre pour la faire tourner entre nos doigts. Mais ce qu'on ne perçoit pas en faisant ce geste simple, c'est qu'on tient dans la main le fruit d'une centaine de millions d'années d'évolution particulièrement intéressante à comprendre pour saisir que les plumes servent à autre chose qu'à voler et que leur incroyable diversité répond à de multiples raisons que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Pour commencer cette émission, j'aimerais tout de même que nous partions du présent et que nous fassions la description de cette plume en apparence très simple qu'on ramasse parfois dans l'herbe ou sur un chemin. Antoine Louchard, on va commencer par le point de départ. Comment ça se forme une plume? Comment ça pousse et comment ça se développe?
Alors, une plume, ça, d'abord, il faut savoir que c'est une fanère. Donc, c'est exactement comme les poils, les cheveux des mammifères, les ongles, comme la partie cornée du bec de l'oiseau, des oiseaux aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est la partie épithéliale, en fait, la partie la plus externe, comme la partie la plus externe de la peau aussi. Et donc, en fait, c'est une partie qui est, une fois arrivée à maturité, est morte et qui va se remplacer au cours de la vie et qui est composée, en l'occurrence, de kératine. Alors, chez les oiseaux, c'est de la kératine bêta. C'est exactement la même kératine que la partie extérieure du bec des oiseaux, par exemple.
Quelle propriété cette kératine va-t-elle donner aux plumes en particulier?
Alors, elle a à la fois une caractéristique de solidité, mais également de souplesse. C'est un matériau qui va s'user au cours de la vie, mais qui va pouvoir être remplacé. Donc, peut-être on pourra parler plus tard. En ce qui concerne les plumes, ben, c'est que chaque plume au cours de la vie va pouvoir tomber un grand nombre de fois et être remplacé au cours de la mue. Et pour ce qui est de la croissance, chaque plume croît un peu au début comme un poil, en fait, à l'intérieur d'un follicule. Et puis, sous forme d'un filament, en fait, qui est le rachis de la plume. Et le filament va, en fait, au cours de la croissance, donc pousser, et se déployer à partir de la partie la plus distale, en fait. Et se déployer, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître les barbes, c'est-à-dire les éléments qui sont à 45 degrés par rapport à l'axe au rachis de la plume. Chaque barbe porte des barbules, et puis les barbules côté distal portent des petits crochets qu'on appelle les barbicelles. Et ça va se déployer de la partie distale, c'est-à-dire la partie la plus éloignée, au cours de la croissance de la plume, vers la partie basale, c'est-à-dire proximale.
Là, vous avez parlé donc de la morphologie d'une plume de façon assez générale. Il y a plusieurs catégories et familles de plumes. Est-ce qu'on peut décrire, justement, Antoine Louchard, ces différentes catégories et familles de plumes et leurs différentes fonctions?
Oui, alors il y a les plus connues, les plus Et les plus importants pour le vol, évidemment, sont les plumes des ailes, qu'on appelle les rémiges. Donc il y en a de plusieurs. Les plus éloignées, les plus grandes, sont les primaires, et puis ensuite les plus proches du corps sont les secondaires, et parfois il y a les tertiaires. Les plumes de la queue, qu'on appelle les rectrices, donc ces différentes plumes, des ailes et de la queue, sont ce qu'on appelle les pennes, en fait. Donc c'est les plumes les plus spécialisées pour le vol. Et elles sont asymétriques, c'est important aussi, chez tous les oiseaux actuels, elles sont asymétriques. Ce qui est vraiment clairement une adaptation pour le vol. Ensuite, il y a toutes les plumes qui couvrent le corps de l'oiseau, qu'on appelle les plumes de couverture. Il y a les plumes de duvet, qui existent chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, qui sont sous les plumes de couverture, qui sont des plumes duveteuses, hein, qui sont vraiment pour la thermorégulation, pour garder la chaleur, pour aussi protéger soit du froid, soit de la chaleur extérieure. Puis il y a des plumes, d'autres types de plumes qui existent. Alors, il y a des plumes de couverture des ailes aussi, et de la base des ailes et de la queue. Après, il y a plein de types spécialisés, encore des subdivisions dans la nomenclature des plumes, et les plumes scapulaires qui sont aux épaules, etc. Puis il y a des plumes un petit peu plus spécialisées, comme par exemple des vibrisses, mais beaucoup d'oiseaux qui ont des vibrisses au bord du bec, un peu comme les chats.
Pascal Godefroy, on voit souvent des plumes sur lesquelles l'eau ruisselle et ne pénètre pas. Comment se fait-il que ces plumes d'oiseaux soient aussi imperméables ?
Je pense que c'est vraiment leur propriété à la fois physique, mais également chimique. Bon, et là, la perméabilité, je suis pas vraiment spécialiste là-dedans, à mon avis, Antoine en sait plus que moi, mais bon, varie également d'un type d'oiseau à l'autre. C'est bien adapté au milieu de vie.
Antoine Louchard, du coup, je vous pose la même question. Comment se fait-il que les plumes d'oiseaux soient de façon aussi efficace imperméables?
Alors, l'imperméabilité, elle va venir quand même essentiellement du fait que les subdivisions d'une plume, à part les plumes de duvet qui ont des filaments désorganisés, mais toutes les autres plumes, comme je vous disais, ont des subdivisions qui s'imbriquent tellement bien les unes dans les autres, c'est-à-dire, comme je vous disais, il y a le rachis de la plume, c'est l'axe de la plume, de chaque côté un petit peu à 45 degrés, il y a les barbes, et puis à 45 degrés de chaque barbe, il y a les barbules. Et puis les barbules, côté distal, comme je vous disais, ont des crochets qui vont s'imbriquer dans les barbules de la barbe suivante, côté proximal. Et donc là, on est à une échelle très très petite, et chaque crochet va tellement bien s'imbriquer que si on revient à l'échelle après de l'oiseau, à l'échelle de la plume, ça forme une pellicule plane. Enfin, chaque plume forme une pellicule plane qui est totalement hydrophobe. Enfin, qui ne va pas laisser passer l'eau, qui va pas beaucoup laisser passer l'air non plus. Donc c'est vraiment lié au fait que tout s'imbrique très bien. Et ce qui est très important ici, c'est que les oiseaux, très très souvent, enfin au cours d'une journée, vont lisser avec leur bec chaque plume. Et c'est ça qui est vraiment crucial pour que justement chaque plume reste avec ses propriétés. Ces propriétés-là.
Donc, ouais, c'est un travail quotidien et régulier que font ces oiseaux de remettre leurs plumes en ordre. Quand on parle des plumes, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à la variété des couleurs de ces plumes. Comment justement là aussi expliquer ces différentes couleurs? Comment sont-elles fabriquées, ces couleurs-là, Antoine Louchard?
Alors, la couleur des oiseaux, ça c'est très intéressant. Je pense que Pascal pourra en parler aussi parce qu'on en trouve des indices sur les fossiles. Et en fait, elle est elle a de multiples origines. Mais chez les oiseaux, d'abord, il y a des pigments. Donc, les principaux pigments, ça va être des mélanines. Il y a de forme les eumélanines qui sont vraiment noires. Les phaéomélanines qui vont être plus dans les tons bruns. Ensuite, il y a d'autres pigments comme les porphyrines qui vont contenir des catégories comme par exemple une que j'aime bien citer, c'est la thoracoverdine parce que c'est un pigment vert qui est en fait très rare parce que justement je vais vous parler ensuite des autres types de couleurs. mais c'est le seul vert qui existe chez les oiseaux qui soit dû à un pigment, et il existe uniquement chez les touracos, d'où son nom. Donc ça, c'est un peu pour les porphyrines. Il y en a d'autres couleurs dans les porphyrines. Donc, et ensuite, il y a les caroténoïdes. Alors, ceux-là sont très importants, les caroténoïdes. Mais eux, par contre, ne viennent que de la nourriture des oiseaux. Donc, et ils vont s'intégrer à certaines plumes et donner des colorations orangées. Donc, voilà pour les pigments. Mais chez les oiseaux, ce qui est très important, c'est que une grande partie des couleurs ne sont pas dues à des pigments, mais à ce qu'on appelle des couleurs structurelles. Et en fait, c'est dû à la façon dont des différentes couches, des couches à l'intérieur des plumes, hein, des couches sans pigments, des couches avec différentes structures de couches de mélanosomes, c'est-à-dire ces éléments qui contiennent les mélanines, vont simplement diffracter la lumière qui vient de l'extérieur et la décomposer. Et donc, selon le type d'arrangement, la longueur d'onde qui va ressortir et qui va donc être celle qu'on va voir va être par exemple du bleu ou du vert.
On pense en fait, par exemple aux couleurs iridescentes dans la queue d'une pie par exemple.
Alors ça c'est encore une dernière catégorie. C'est à peu près le même phénomène qui est un phénomène de diffraction, mais l'iridescence c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que cette couleur qu'on va percevoir va être différente selon l'angle par lequel on va observer l'oiseau, en fait. On va observer une plume. Et si l'angle d'observation change, l'irisation, la couleur iridescente va changer. Donc ça, c'est vraiment d'où le nom les irisations qui changent avec l'angle selon lequel on regarde une plume de colibri ou, comme vous avez dit, les plumes de pie, par exemple. Mais les couleurs structurelles, elles vont donner une coloration qui n'est pas due au pigment, mais à la réfraction de la lumière, sans que ce soit dépendant de l'angle de vision, en fait. Et c'est ce qui va donner la plupart des tons bleus et presque tous les tons verts, en fait. On va dire presque toutes les couleurs bleues et vertes, non iridescentes, hein, des oiseaux, sont structurelles, en fait.
Pascal Godefroy, on anticipe un petit peu sur ces plumes fossiles, oui. Mais Antoine Louchard évoquait le fait que vous auriez sans doute pas mal d'éléments à apporter sur cette diversité des couleurs des plumes. Cette diversité, elle est très ancienne.
Oui, oui, et bon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que je me rappelle, il y a encore 20 ans, on se disait, la couleur des dinosaures, la couleur d'autres fossiles, dont les oiseaux, c'est quelque chose qu'on connaîtra jamais. D'habitude, on retrouve des os. Mais là, on anticipe, mais dans certains gisements, notamment en Chine, on a retrouvé des cadavres d'oiseaux et de dinosaures tellement bien conservés qu'on retrouve dans les fossiles des traces de ce qu'on appelle des mélanosomes. Donc les mélanosomes, c'est vraiment les organites spécialisés présents dans les mélanocytes, donc dans les cellules pigmentaires, et qui synthétisent et stockent la mélanine. Donc la mélanine, c'est vraiment une molécule qui est responsable d'une partie de la coloration des plumes. Et donc certains fossiles sont tellement bien conservé qu'on va retrouver vraiment des traces, de ces mélanosomes fossilisés. Donc c'est vraiment des trucs absolument minuscules de quelques microns, mais on va les retrouver dans des plumes fossiles. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que, notamment chez les oiseaux actuels, la forme de ces mélanosomes va en partie déterminer la coloration des cellules, et on va retrouver dans des mélanosomes de différentes formes dans des fossiles vieux de 125 millions d'années, donc donnant des indications sur la coloration de ces fossiles extrêmement vieux.
Voilà, donc là on a fait une petite incursion dans ces plumes fossiles. Pour conclure cette description des plumes actuelles, Antoine Louchard, on peut aussi rappeler l'extraordinaire diversité des plumes, parce que si on prend l'exemple par exemple d'un manchot, d'un colibri que vous évoquiez tout à l'heure, ou d'un hibou, d'une chouette, les plumes qui les couvrent ne sont pas du tout les mêmes, n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Alors, est-ce qu'on peut, sur ces trois exemples, par exemple, le manchot, le colibri, la chouette, parler des spécificités de leurs plumes?
Oui, bien sûr. Là, on va parler des différentes fonctions des plumes d'oiseaux, et effectivement, elles sont nombreuses. Donc il y a évidemment le vol, donc le vol, les différents types de vols, hein, plus ou moins actifs ou passifs. Mais alors la thermorégulation, ça, c'est une fonction très importante. On en a parlé un petit peu au début avec le côté hermétique à l'eau. Comme on dit souvent, les plumes de canard, alors voilà, les plumes de canard sont vraiment très très bien formées pour ça, et sont parfaitement hermétiques à l'eau. À l'air aussi, hein, pour les oiseaux qui vivent dans le froid, donc y compris pour les manchots, d'ailleurs c'est important, parce que là, à la fois quand ils sont, non pas dans l'eau, mais à des températures glaciales en Antarctique, et puis dans l'eau glacée, puisque c'est des oiseaux qui font du vol subaquatique, en fait, qui utilisent leurs ailes pour littéralement voler sous l'eau. Mais il y a d'autres fonctions, en fait, les plumes de couverture aussi sont très efficaces pour protéger contre des chocs qui peuvent arriver au cours de la vie de l'oiseau. Et là, il suffit de... En fait, le choc, il va défaire un peu les plumes, mais il ne va pas les casser. Il suffira à l'oiseau de les relisser. Et puis, encore une fois, ensuite, il y a les mues, hein, les mues des plumes qui font qu'elles sont renouvelées au moins une fois par an, parfois plusieurs fois par an, selon les espèces. Et ensuite, il y a d'autres fonctions. On pense que pourquoi les plumes sont si colorées et parfois si ornementales, avec des longues plumes de la queue, des plumes très, très très ornementées, colorées, irisées, ça fait partie de la sélection sexuelle, en fait, et qui fait que les mâles vont être choisis par les femelles. Alors parfois c'est l'inverse, hein. Il y a quelques rares groupes d'oiseaux où c'est l'inverse, en fait, c'est le mâle qui tient tous les rôles de la femelle, à part la ponte des œufs. Mais bon, généralement, ce sont les mâles, donc ils vont avoir les couleurs les plus vives, etc. Et c'est ceux qui vont, vraiment les individus qui vont avoir les couleurs les plus vives, les ornements les plus remarquables, qui vont être sélectionnés par les femelles, parce que on pense que ce sont des indices aussi de la bonne santé, de la fitness, etc. Donc ça, et puis je pense à une autre dernière catégorie de fonction des plumes, c'est par exemple le camouflage. Donc par exemple pour des oiseaux qui vont être des proies, de pouvoir se camoufler dans des environnements, mais pas que des proies d'ailleurs, parce que même des prédateurs comme des rapaces nocturnes, oui, voilà, les chouettes, par exemple, alors, typiquement, qui vont se reposer par exemple le long d'un tronc d'arbre durant la journée, en fait, ont besoin de ne pas être trop visibles non plus. Donc vont avoir un plumage comme ça, très cryptique, les engoulevents aussi.
Donc là, on a bien compris donc la diversité des couleurs, des formes, des fonctions de ces ailes. Et bien sûr, pour expliquer cette diversité, quoi de mieux que de raconter l'histoire évolutive des ailes? On y vient tout de suite.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre vol dans l'histoire évolutive des plumes avec vous, Pascal Godefroy et Antoine Louchard. Pour comprendre l'histoire des plumes, je le disais, il faut bien sûr comprendre l'histoire des oiseaux et des débats qui ont suscité leur histoire évolutive. Pascal Godefroy, Darwin parlait pour l'origine des plantes à fleurs d'un abominable mystère. Est-ce que l'origine des oiseaux a aussi été l'un de ces abominables mystères qui a animé les débats chez les biologistes ?
Oui, mais ce qui est absolument étonnant, c'est que les paléontologues avaient la clé de l'histoire dès le milieu du 19e siècle. Donc, en 1860, des ouvriers qui travaillaient dans une carrière en Bavière, à Solnhofen, ont découvert dans du calcaire lithographique une plume absolument incroyablement conservée, qui a été baptisé un an plus tard Archaeopteryx, donc ancienne aile. Donc il faut savoir, bon, c'est une plume qui date de plus de 150 millions d'années. Un an plus tard, les mêmes carriers retrouvent un squelette plus ou moins complet d'un animal avec autour du corps donc des plumes. Bon, ça faisait penser à un oiseau, sauf qu'il y avait quand même des caractères assez particuliers, comme par exemple la présence d'une longue queue osseuse, qu'on ne retrouve pas chez les oiseaux actuels, mais qu'on va retrouver chez les reptiles, ou encore au niveau des mâchoires, la présence de dents.
Ça a conduit un certain Thomas Henry Huxley, qui était un bon ami de Darwin, oui, à faire une proposition qui était assez radicale. Quelle était cette proposition-là?
Oui, donc voilà. Donc Huxley propose en 1869 que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Voilà, donc c'est, finalement en 1869, Huxley avait la réponse au problème. Mais bon, la réponse d'Huxley a été mise de côté assez rapidement et elle est même tombée dans l'oubli pendant un siècle.
Pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux, cette proposition-là, Pascal Godefroy ?
Franchement, je ne sais pas, parce que bon, les hypothèses qui sont venues après, moi, je n'ai pas vraiment de clés. C'était bon, il n'y avait pas vraiment de solution jusqu'en 1969, donc exactement un siècle plus tard, où un paléontologue américain qui s'appelle John Ostrom a mis au jour aux États-Unis des squelettes d'un petit dinosaure carnivore qu'il a baptisé le Deinonychus. Donc en fait, le Deinonychus, c'est le raptor de Jurassic Park. Et en étudiant ce Deinonychus, il a noté de très nombreuses ressemblances avec l'Archaeopteryx, donc l'oiseau de Bavière découvert un siècle plus tôt, et avec les oiseaux actuels. Donc en 1969, et dans les années suivantes, donc Ostrom a ressuscité cette hypothèse d'une origine dinosaurienne des oiseaux. Et là, l'idée s'est assez rapidement implantée dans l'esprit des paléontologues. Donc, dans les années 80, avec aussi la mise au point de nouvelles méthodes d'investigation, ce qu'on appelle l'analyse cladistique, donc de plus en plus de paléontologues ont commencé à admettre que les oiseaux étaient les descendants de dinosaures du type des raptors.
Et ce qu'il faut dire aussi, Pascal Godefroy, c'est que ces années 70, 80, 90 ont été aussi un âge d'or pour les paléontologues en Chine, notamment. Pourquoi la Chine est-elle autant un Eldorado?
Pas encore exactement là. Les découvertes en Chine vont se faire dans les années 90. Mmh. Donc exactement en 1996, donc des paléontologues chinois vont mettre au jour dans le Liaoning, dans des gisements datant du Crétacé inférieur, donc 125 millions d'années, le squelette d'un petit dinosaure bipède. Bon, le squelette n'est pas extraordinaire, mais alors ce qui était absolument extraordinaire, c'est que tout autour du squelette, on retrouve des traces de filaments qui ressemblent assez furieusement au duvet qu'on va retrouver chez les oiseaux actuels. Donc, c'était la première découverte de ce qu'on a appelé les dinosaures à plumes. Donc, le premier dinosaure à plumes donc, était baptisé le Cynosauropteryx. Donc, c'était ce petit dinosaure carnivore bipède avec des petits bras et donc ce duvet tout autour. Bon, naturellement, ces plumes-là ne servaient pas au vol parce que c'était donc des plumes de plutôt duveteuses et de toute façon, avec ces petits bras, s'il avait commencé à voler, ça serait cassé la figure. Donc, clairement, c'était des plumes de type duvet, donc qui probablement servaient d'isolation pour empêcher que la chaleur corporelle produite par le métabolisme du petit dinosaure ne s'évapore pas dans l'atmosphère. Donc c'était des animaux. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des animaux qui étaient déjà à sang chaud, comme les oiseaux actuels. Donc, si vous avez une chaudière dans une maison, si vous n'avez pas de bonne isolation, ça sert à rien. Donc, c'est la même chose chez les animaux. Donc, les animaux qui vont produire une chaleur, leur propre chaleur corporelle, vont avoir tendance à avoir une couverture, un duvet, une doudoune, pour empêcher que cette chaleur ne se dissipe tout autour.
Du coup, Pascal Godefroy, on comprend bien que ces grandes découvertes qui sont réalisées à répétition, notamment dans cette région du Liaoning en Chine, répondent à la question déjà qui de la plume ou de l'oiseau est apparu en premier. On comprend que c'est de la plume qui est apparue en premier. Et puis vous le disiez, des plumes qui servent au vol.
Oui, parce que quelque part, jusque dans les années 90, la plume faisait l'oiseau, donc on ne retrouvait des plumes que chez les oiseaux et tous les oiseaux sont recouverts de plumes. Mais donc à partir des années 90 et la découverte dans ces gisements du Liaoning, on va mettre au jour de plus en plus de petits dinosaures carnivores avec des plumes mmh. autour de leur corps, différents types de plumes. Bon, donc on a, en 1998, on a Cynosauropteryx. Un an plus tard, on va décrire le Caudipteryx. Le Caudipteryx, c'est aussi un dinosaure un peu plus grand, aussi un bipède, qui ressemble à une sorte de grosse dinde. Et là, on va voir également que le corps était recouvert de plumes duveteuses, mais on va également retrouver des plumes ressemblant plus aux plumes de vol au bout de la queue et le long des bras. Mmh. Donc ce sont des plumes longues, ces plumes ne restent symétriques, donc elles ne sont pas asymétriques comme l'expliquait Antoine pour les plumes de vol. Donc voilà, à quoi ça lui servait? Pas au vol, parce que de toute façon, ces animaux-là, avec leurs petits bras à nouveau, étaient incapables de voler. Mais bon, ils avaient des panaches de plumes autour de la queue et autour des bras. Mais probablement, ça leur servait à faire joli, comme l'a expliqué
Antoine. Ça servait pour la sélection sexuelle, pour la communication visuelle.
Oui, voilà,
visuelle,
pour la sélection sexuelle. Oui,
le camouflage, éventuellement.
Donc voilà, une deuxième fonction, éventuellement.
Oui.
Et même, encore une autre fonction, c'est qu'on sait que... On a retrouvé des squelettes... d'animaux proches du Caudipteryx en Chine et en Mongolie, et on a retrouvé ces squelettes associés à des nids d'œufs. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est des animaux qui pouvaient couver leurs œufs comme le font les oiseaux actuels. Donc quelque part, les plumes ont une fonction quelque part reproductrice, et ça va les aider à couver leurs œufs. C'est encore une fonction accessoire des plumes.
Antoine Louchard, ce qu'on comprend dans le propos de Pascal Godefroy, c'est que finalement, le vol n'est pas une fonction première des plumes. Alors, à partir de quand on peut estimer que ce vol se met en place? Et puis, pour quelles raisons les oiseaux se mettent-ils à voler? Là aussi, c'est une énigme assez importante dans l'histoire de l'évolution.
Alors je crois qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui existent sur vraiment l'origine du vol. Moi, il y en a une peut-être que j'aime bien. Après, ce serait plus celle d'animaux qui étaient déjà arboricoles et étant arboricoles, se sont mis à faire du vol plané en fait. Petit à petit, et ce, par exemple, on peut comprendre pour échapper plus facilement à des prédateurs. En fait, quand on regarde le nombre de vertébrés qui, sur l'île de Bornéo, par exemple, ont développé ce genre de vol plané dans les forêts, mais ça va des serpents à certaines grenouilles, des lézards, et puis des mammifères aussi, etc., puis des oiseaux, bien sûr. Voilà, ça peut être une des origines du vol. C'est-à-dire qu'au début, ça aurait peut-être été du vol plané pour aller d'un arbre à un autre, sans perdre trop d'altitude, etc. Mais c'est vrai que les plumes étaient probablement déjà existantes. Il faut qu'elles aient été déjà présentes et avec un minimum de portance au niveau des ailes, avec peut-être aussi un patagium, parfois chez certaines espèces en plus. Et là, on retrouve des fossiles aussi très, très étranges là-dedans.
Bon, un patagium, on peut rappeler ce que c'est pour les personnes qui ne sont pas au courant?
Un patagium, c'est ce qu'on observe par exemple chez les écureuils volants, entre les pattes avant et les pattes arrière, mais aussi, au sens large, c'est la peau qu'il y a entre les longs doigts des chauves-souris, ou alors la peau qu'il y avait entre le long doigt des ptérosaures, les ptérodactyles, les reptiles volants du Mésozoïque, donc entre ce long doigt et le corps, donc tout ça c'est des patagiums. Et il y a des théropodes très proches de l'origine des oiseaux qui présentaient ça aussi, comme je pense à certains animaux très étranges à l'intérieur du groupe qu'on appelle les Scansoriopterygidae, qui avaient des plumes en plus, de tout ça bien sûr, des plumes bien formées. Des pennes aussi, mais qui étaient encore symétriques aussi, je crois, sauf erreur de ma part. Qui se situe quand même très proche de l'origine des oiseaux et du vol.
Pascal Godefroy, pour voler, il faut des ailes. C'est un secret pour personne. Ces ailes, du coup, vous évoquiez ces dinosaures qui n'avaient pas d'ailes et qui ne pouvaient pas voler. Si ces ailes se sont développées à nouveau, pourquoi
les ailes se sont développées très rapidement dans l'évolution de ces animaux-là. Alors, si on retourne en Chine en 2003, les paléontologues chinois, à nouveau, ont décrit un petit dinosaure carnivore absolument extraordinaire qu'ils ont baptisé le Microraptor. Donc le Microraptor, c'est un cousin du Vélociraptor et du Deinonychus de Jurassic Park. Donc vous avez imaginé. Et à nouveau, surprise, le corps de ces animaux, de ces Microraptors, était entièrement recouvert de plumes. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que le long du bras et le long des pattes arrière de cet animal, eh bien, on a des véritables plumes de vol qui se sont développées, donc des plumes très allongées, des plumes asymétriques. Donc, ce Microraptor, donc ce petit dinosaure carnivore, avait des ailes assez semblables aux ailes des oiseaux actuels, mais ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il n'avait pas deux ailes comme les oiseaux, mais il avait quatre ailes. Il avait des ailes donc le long des bras, mais également des ailes le long des pattes arrière. Donc on pense que c'était des animaux qui pouvaient planer, pas voler, mais probablement planer, comme disait Antoine, d'arbre en arbre, et qui s'aidaient de leurs quatre ailes pour pouvoir planer. Alors on peut faire donc un parallélisme entre le développement du vol chez les dinosaures oiseaux et chez les avions. Bon, les premiers avions sont des biplans. Les premiers dinosaures volants étaient probablement également des biplans. Puis ils sont apparus des animaux et des avions avec seulement deux ailes.
Restez avec nous parce qu'on va poursuivre notre histoire de plumes dans quelques instants. On va faire un petit temps calme et on se retrouve juste après ça. Light as a Feather par Crossis dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de l'apparition et de l'évolution des plumes dans le monde vivant et nous en parlons avec Antoine Louchard, paléo-ornithologue au CNRS au sein du laboratoire de géologie de Lyon et avec Pascal Godefroy, paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles en Belgique. On a parlé de l'évolution des plumes et de la façon dont on avait compris progressivement que certains dinosaures en étaient dotés. On va voir tout de suite que cette image du dinosaure a écaille à la peau dure. On en parle dans le reportage. Les plumes, nous l'avons dit, sont apparues bien avant que les animaux ne puissent s'en servir pour voler, et on les retrouve donc chez un grand nombre de dinosaures théropodes avant l'existence des oiseaux. Mais comment la culture populaire a-t-elle ou n'a-t-elle pas pris en compte l'existence de ces plumes pour représenter les dinosaures? On s'y intéresse dans notre reportage. Bonjour Loïc Dutoit, pardon.
Bonjour Antoine.
Bonjour Loïc Dutoit, je le refais. Pour ce reportage, vous vous êtes rendu à la galerie de paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle pour nous parler de la représentation des dinosaures de Jurassic Park.
Et cette représentation, comme vous vous en doutez peut-être, n'est pas très fidèle d'un point de vue scientifique. Jean-Sébastien Steyer est paléontologue au CNRS, affecté au Muséum National d'Histoire Naturelle et co-directeur d'un ouvrage intitulé « Jurassic Park et les sciences ». Et ensemble, nous avons regardé plusieurs extraits de films de différents opus des sagas Jurassic Park et Jurassic World, en s'intéressant particulièrement à la représentation des raptors. Parce que c'est cette famille de dinosaures qui se trouve à la frontière entre les dinosauriens et les oiseaux. En comparant les images que nous avions sous les yeux avec les moulages fossiles de raptors qui nous entouraient dans cette vaste galerie du muséum, le contraste saute aux yeux. Les spécimens du film sont largement déplumés par rapport à la réalité. Le premier extrait de film que nous avons visionné est tiré de Jurassic Park 1, sorti en 1993.
On est dans cette fameuse scène qui est maintenant vraiment iconique hein, dans l'histoire du cinéma, où on a des raptors, enfin soi-disant des raptors, qui chassent en fait les petits-enfants de John Hammond et qui sont capables d'ouvrir des portes, qui sont capables de sentir leur proie, de détecter le moindre son. On a quand même des organismes qui sont hyper dynamiques en termes de physiologie, en termes de comportement, mais la grande faute ici, c'est qu'il n'y a pas de plumes. Alors ce sont des organismes qui sont vendus entre guillemets comme des raptors, mais quand on regarde les vrais raptors et notamment le Velociraptor, hein, c'est le nom que Spielberg a donné à ces créatures-là, on n'est pas du tout dans la réalité. Hein. On sait bien que Jurassic Park, c'est pas un documentaire sur les dinosaures, c'est un film hollywoodien, mais ils ont là vraiment traité les raptors comme des monstres et non pas comme ce qu'ils étaient réellement, quoi.
Pour savoir si on fait un petit peu de l'anachronisme ou pas aussi, il faut bien dire quand même que le film sort en 93. Qu'est-ce qu'on savait déjà sur les plumes en 93? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus, j'imagine, qu'à l'époque.
Oui, alors on savait quand même déjà en 93 que les raptors, en tout cas la famille, le grand groupe de ces dinosaures théropodes, hein, comme on les appelle, ce grand groupe-là des raptors, donc, avait des plumes. Et ça, on le sait depuis 1860-1861, depuis la découverte d'un autre dinosaure hyper important pour nous et dans l'histoire des sciences, qui est Archaeopteryx. Archaeopteryx, c'est le premier dinosaure découvert dans l'histoire de la paléontologie qui présente des plumes et qui montre bien que les oiseaux aujourd'hui sont des dinosaures à plumes.
Et donc là, nous, on est dans la galerie de paléontologie du muséum et donc il y a des moulages, notamment d'Archaeopteryx, qui sont assez intéressants à analyser parce qu'on voit justement la proximité en regardant ces espèces entre certains de ces dinosaures comme Archaeopteryx et les oiseaux qu'on connaît actuellement.
Voilà, c'est ça. Donc là, on est devant justement la vitrine qui illustre la transition, comme on le dit, entre les dinosaures et les oiseaux, et avec ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, c'est-à-dire un arbre de relation de parenté des espèces. Et puis juste devant nous, là, on a un superbe moulage du spécimen berlinois. Il y en a 14 connus au monde de spécimens d'Archaeopteryx. C'est très rare. C'est connu depuis le 19e siècle, hein, jurassique de Bavière. Eh bien là, on voit bien qu'on a affaire à un petit dinosaure avec des dents, si on regarde bien en fait le crâne, avec une queue ici hein, qui descend, des pattes griffues à l'avant, à l'arrière, mais aussi la présence de plumes. On voit bien en fait que la queue est complètement recouverte de plumes et que l'animal avait des ailes.
L'existence de ces plumes chez les dinosaures, c'est quelque chose qui va être partiellement pris en compte dans les opus qui ont suivi le premier opus de Jurassic Park.
Oui, enfin.
On peut peut-être aller voir un autre extrait, justement. On est dans une scène de Jurassic Park 3.
C'est ça.
Où certains des raptors ont des plumes sur la tête, une petite crête de plumes.
Oui, alors c'est une crête un peu timide. Donc là, il y a Alan Grant et les Kirby qui sont entourés de raptors. Les raptors qui se demandent comment ils vont les croquer. Hein. Et puis, on voit que là, il y a une petite évolution graphique quand même entre le JP1, Jurassic Park 1 et le 3. Jack Horner, le collègue paléontologue qui a été conseiller scientifique de Spielberg, s'est quand même dit, bon, il faut quand même que je rajoute des trucs qui ressemblent de loin à des plumes pour montrer qu'il y a une évolution des connaissances chez les raptors. Et donc on voit là ces affreux raptors, ils présentent une sorte de crête avec quelques pics qui sont pas assez pour moi de type plume. Ça ressemble plus à des pics de porc-épic.
Cet aspect plumé des dinosaures, il va être encore amplifié dans la saga qui arrive ensuite avec Jurassic World. Alors, il y aura toujours certains raptors qui ont aucune plume. Ouais. Mais on a par exemple le Pyroraptor qui, si je ne dis pas de bêtises en plus, est lié à la France.
Oui.
Je vous laisserai expliquer ça, mais et qui donc est lui très plumé, comme on le voit sur cette scène du troisième opus de Jurassic World Dominion.
Tout à fait. Donc là, on voit les protagonistes, notamment le vétérinaire spécialiste du comportement sous-entendu de dinosaures. On voit que c'est intéressant en termes de personnage. Le référent n'est plus paléontologue, mais éthologue, c'est-à-dire c'est un vétérinaire spécialiste du comportement, parce que les scénaristes ont voulu insister sur le fait que avec Jurassic World, on rentre vraiment dans le comportement des espèces. Donc là, on a un grand raptor qui s'avance sur la glace.
Et là, il est vraiment plumé de la tête aux pieds.
Voilà, là, il a une crête avec des plumes, il a des plumes sur les membres antérieurs, il a des plumes vraiment sur tout le corps. C'est un gros emplumé. Et bon, il est un petit peu kitsch quand même, il est un peu flamboyant, il a une couleur rougeâtre et c'est le Pyroraptor. Alors peut-être qu'ils ont utilisé ces couleurs un peu flashy en évocation du nom Pyroraptor, qui est un raptor qui a été découvert dans le sud de la France à cause en fait de feux de forêt, à cause d'incendies. Il est assez bien reconstitué parce que, alors il devait être sans doute un peu plus petit, mais en tout cas là on a des plumes. Donc,
on est beaucoup plus proche de l'oiseau, effectivement, ici.
Oui, tout à fait. On a considéré, enfin, que les raptors dans Jurassic Park étaient plus proches des oiseaux que des autres théropodes, on va dire, ou des autres dinosaures. Quoi. Par contre, en ce qui concerne les autres dinosaures, que ce soit les raptors sans plumes, malheureusement, ou des dinosaures, ou des sauropodes, qu'on voit encore dans Jurassic Park, un petit peu reconstitués d'une manière has-been, eh ben, les scénaristes s'affranchissent un peu de la réalité scientifique parce qu'à un moment, il y a un personnage du film qui dit « De toute façon, en gros, on s'en fout un peu. On a reconstitué les dinosaures dans le parc tels que le public voulait les voir et pas tels qu'ils étaient réellement. » Et donc, à partir de là, eh ben, Spielberg fait ce qu'il veut. Quoi.
C'est pratique.
Voilà.
Merci beaucoup Loïc Dutoit. Ce reportage est comme toujours à réécouter dans notre collection de podcasts La Science au Labo sur l'appli Radio France et sur la page de La Science au Labo sur le site franceculture.fr. Pascal Godefroy, comment expliquer que cette image des dinosaures à écailles ait la peau aussi dure et comment expliquer que le grand public ne veuille toujours pas voir des plumes sur ces dinosaures ?
Oh, je pense que c'est pas vrai. Maintenant, si vous discutez avec des gosses... Ils savent tous que les dinosaures carnivores ont des plumes. Je pense que c'est les adultes qui ont du mal à remettre leurs idées profondément liées à leur enfance en question. Bon, voilà.
Antoine Louchard, une réaction à ce reportage également.
Oui, je suis d'accord. Et bon, je suis d'accord aussi avec quand même le. L'idée qui a été émise par Jean-Sébastien Steyer que bon, Jurassic Park, Jurassic World, ça reste des films de divertissement et de fiction. Donc moi je ne suis pas non plus choqué que ça ne cherche pas à tout prix à être le plus fidèle possible aux dernières découvertes scientifiques. Et puis après, bon, sur le fait qu'effectivement, je suis d'accord avec Pascal que maintenant, je pense que la nouvelle génération sont quand même familiers avec... Avec les théropodes à plumes, avec après d'autres dinosaures plus éloignés qui avaient des proto-plumes, on va dire, des plumes, ouais, des proto-plumes peut-être, on va dire, des ancêtres des plumes. Voilà, ça devient quand même de plus en plus accepté, mais ça met un petit peu de temps, ouais, dans la société.
Pascal Godefroy, vous avez contribué à une découverte très belle d'un des plus vieux ancêtres des oiseaux, un de ces dinosaures avec des plumes. Alors, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si tous les dinosaures avaient des plumes ou bien non ?
Alors, donc, jusque dans les années 2010, bon, voilà, maintenant, on savait que... potentiellement tous les dinosaures, ce qu'on appelle les théropodes, donc les dinosaures carnivores, avaient des plumes. Donc la plume, en tout cas, caractérisait, je dirais plutôt, la lignée des dinosaures ptéropodes, dont descendent directement les oiseaux. En 2013, une collègue russe exploitait un gisement en Sibérie et a découvert des fossiles tout à fait étonnants. Donc, moi, elle m'a appelé parce que je travaillais pas mal en Sibérie à l'époque, en disant ouais, j'ai des trucs bizarres. On a des fossiles de crocodiles avec des écailles. On a des fossiles de dinosaures théropodes carnivores avec des os caractéristiques. On a des plumes qui doivent appartenir à des oiseaux. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et lorsque j'ai été voir, les pièces du puzzle sont assez rapidement mises en place. Et ce qu'on avait là en Sibérie, c'est un animal qui est un dinosaure, ce qu'on appelle un dinosaure ornithopode. Donc c'est un petit dinosaure herbivore. Et celui-là était bipède, donc c'est un peu un lointain ancêtre des iguanodons ou des hadrosaures. Et ce qui était étonnant, c'est que le corps de ce petit dinosaure herbivore, donc très éloigné de la lignée des théropodes, était lui aussi complètement recouvert de filaments duveteux. Et même au niveau des bras et des pattes, de structures assez complexes qui ressemblent très fort à ce qu'on pourrait appeler des protoplumes, donc des plumes primitives. Donc pour la première fois, on trouve un herbivore en dehors de la lignée directe des oiseaux, dont le corps était recouvert de protoplumes. Bon, et lorsqu'on sait que cet animal-là, qu'on a baptisé le Coulindadromeus, c'est donc la lignée de cet animal-là, de ce dinosaure-là, s'est séparée de celle de la lignée des dinosaures théropodes il y a environ, donc au tout début de l'histoire des dinosaures, il y a plus de 220 millions d'années. Donc on peut émettre l'hypothèse que, en fait, l'ensemble des dinosaures était potentiellement recouvert de plumes. Mais bon, pour découvrir des plumes, il faut vraiment des conditions de fossilisation absolument exceptionnelle qu'on va retrouver dans le Liaoning en Chine, qu'on va retrouver dans ces gisements de Sibérie. Donc voilà, c'est tout à fait étonnant. Mais là, maintenant, on pense donc que potentiellement tous les dinosaures possédaient des structures épidermiques qui pouvaient ressembler de près ou de loin à des plumes.
Antoine Louchard, j'aimerais qu'on revienne aussi à cette question du vol et de son évolution. Tous les oiseaux ne volent pas. Certains oiseaux ont su voler et ont désappris à voler. Ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant dans l'évolution, la disparition du vol chez certaines espèces d'oiseaux. Comment on l'explique et quels effets ça a sur les plumes, sur la morphologie des ailes notamment?
Oui. Alors, non seulement c'est arrivé un certain nombre de fois, mais en fait, je pense qu'on est plusieurs à penser, que c'est une des plus fortes tendances évolutives chez les oiseaux, en fait. C'est la perte du vol. Et c'est observé notamment chez beaucoup d'oiseaux insulaires. C'est-à-dire que beaucoup d'oiseaux, une fois qu'ils ont colonisé des îles suffisamment lointaines pour qu'il n'y ait pas de prédateurs, notamment de mammifères, reptiles, vont évoluer in situ sur ces îles, vont devenir des espèces endémiques, et ce faisant, vont quasiment immanquablement évoluer vers une réduction des capacités de vol et très souvent une perte totale du vol. Et c'est arrivé de façon tellement récurrente chez de nombreuses espèces sur les îles, de tous les océans, qu'on peut vraiment considérer que c'est une des plus fortes tendances des oiseaux. Et pourquoi c'est arrivé? Donc c'est parce que, notamment, l'absence de prédateurs, le besoin de voler, surtout sur une petite île où l'oiseau va évidemment devenir sédentaire et puis il n'aura pas besoin de se déplacer très loin. Une fois qu'il n'y a plus ce besoin d'échapper aux prédateurs, c'est une énorme économie d'énergie en fait pour ces oiseaux-là que de ne pas avoir à développer tout l'appareil de vol, les ailes, les plumes, la musculature, et puis à entretenir tout le métabolisme lié au vol en fait. Donc, parce que tout ça, c'est très très dépensier en fait en énergie. Et donc, c'est comme une contrainte. En fait, le vol est devenu presque une contrainte en fait, chez les oiseaux qui volent.
On n'a pas parlé aussi également, Antoine Louchard, des plumes d'apparat. Quels sont les effets de ces plumes-là? On pense par exemple au paon sur le vol notamment.
Ah, alors les plumes de la queue du paon ont vraiment été l'objet d'études, un objet d'étude essentiel dans ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire la sélection sexuelle. Et c'est un cas un petit peu extrême de la sélection sexuelle, c'est-à-dire que on observe vraiment que les femelles de paon sélectionnent les mâles qui ont le plus d'ocelles sur la queue et avec les plus longues plumes, etc. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique des plumes d'apparat.
Ces plumes d'apparat, ces plumes d'apparat, ça rejoint aussi une question qui vous tient à cœur, Antoine Louchard, la question de la maltraitance animale, le fait que ces plumes peuvent être prélevées sur les oiseaux directement. Que pouvez-vous nous en dire?
Qu'aujourd'hui, il y a encore deux domaines principaux dans lesquels... En plus, à l'heure où Brigitte Bardot nous a quittés hier et qui était vraiment défenseuse des animaux et puis contre la maltraitance animale et qui a voulu qu'on se souvienne d'elle pour ça principalement, je pense que c'est important de rappeler que, par exemple, pour la literie, l'utilisation des duvets d'oie qui sont encore presque toujours en fait arrachés sur des oies vivantes qui sont élevées dans des conditions atroces, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter, quoi. Donc, je pense que les consommateurs doivent prendre conscience que peut-être acheter des doudounes et des duvets qui sont faits avec des matériaux autres, en fait, soit synthétiques ou non issus de duvets d'oie. Et il y a un autre domaine, c'est la mode aussi. Ça vient d'une longue tradition, avec notamment les plumes qui étaient sur les chapeaux, etc., les plumes d'aigrettes, qui ont d'ailleurs été à l'origine de mouvements au XIXe siècle, les premiers mouvements de protection des animaux. Aujourd'hui, c'est encore énormément utilisé dans la mode. Et j'ai vu qu'il y a, par exemple, il n'y a quasiment qu'une styliste qui est Stella McCartney, je crois que c'est la fille de Paul McCartney, qui utilise des équivalents issus de plumes en fait pour la mode en fait, parce que c'est pareil, hein, c'est des plumes qui sont prises sur des oiseaux vivants élevés dans de mauvaises conditions. Donc voilà, peut-être prendre conscience de ça.
Et une toute dernière question à votre égard, Pascal Godefroy, je crois que vous avez participé à une étude qui va bientôt sortir concernant cette histoire de plumes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sans dévoiler, bien sûr, le contenu total de cette étude, puisque vous êtes tenu au secret.
Pour en revenir à Jurassic Park, on voit les images, avec un monde de dinosaures assez terne, quoi, des animaux écailleux avec des couleurs assez terne. Bon, ce qu'on sait de plus en plus, c'est que c'est pas vrai, probablement. La faune des dinosaures était beaucoup plus exubérante, ça devait ressembler plus au carnaval de Rio. Et on va même retrouver ce phénomène chez des animaux qu'on croyait, chez des dinosaures qu'on croyait bien connus. Nous avons les célèbres iguanodons. Donc, les premiers iguanodons ont été décrits il y a exactement 200 ans. Bon, c'est une icône en Belgique à cause des iguanodons. Bernissère. Donc, on croyait que tout était connu sur ces iguanodons. Ici, on vient de retrouver un petit iguanodon en Chine, incroyablement conservé, avec à nouveau de la peau qui est conservée. Et autour de cette peau-là, on a des trucs absolument incroyables qui nous font dire que, l'image même d'un iguanodon classique, c'est tout à fait suranné. L'iguanodon ne ressemblait absolument pas à ce que l'on croyait à ce jour.
On suivra bien sûr évidemment cette publication avec grande attention. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Antoine Louchard et Pascal Godefroy, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour comprendre cette histoire de plumes. À présent, il est l'heure de retrouver Alexandre Morales pour la chronique Avec Science.
Que nous apprennent les sursauts gamma lointains? Leur nom évoque les meilleurs scénarios de science-fiction, mais les sursauts gamma sont bien réels, ce sont simplement des flashs qui nous parviennent depuis l'espace. Ils n'appartiennent pas au domaine visible, mais à celui des rayonnements gamma, donc ils sont bien plus énergétiques, mais invisibles à l'œil nu. On a découvert leur existence dans les années 60, et là on passe plutôt dans le roman d'espionnage, puisque ces signaux ont été captés pour la première fois par les satellites espions américains alors qu'ils surveillaient les essais nucléaires soviétiques. À partir de là, s'est engagée une longue quête pour comprendre l'origine de ces sursauts, et aujourd'hui, on sait qu'ils sont provoqués par des événements très énergétiques liés à l'effondrement d'étoiles très massives. Une publication parue dans la revue Astronomy and Astrophysics rapporte la découverte d'un sursaut gamma parmi les plus lointains jamais détectés. Bernard Cordier est astrophysicien au CEA, responsable scientifique de la mission SVOM et premier auteur de cette étude.
La supernova, c'est une étoile qui va s'effondrer sur elle-même une fois qu'elle aura en fait fini de puiser tout son combustible par fusion thermonucléaire. Et à ce moment-là, la gravité l'emporte. Et au moment de l'effondrement, en fait, sur ce cœur de l'étoile, il va y avoir un rebond des couches qui vont être réexpulsées vers l'extérieur. Et donc, toute l'enveloppe de l'étoile va être disséminée en fait dans l'univers. Alors, il n'y a qu'une partie d'étoiles très massives qui vont former des sursauts gamma. Donc, on s'attend effectivement sur cette toute petite partie que derrière le signal du sursaut gamma apparaisse une supernova. Le phénomène de sursaut gamma, il est beaucoup plus brillant, beaucoup plus intense. C'est pour ça qu'effectivement, on arrive à déceler des sursauts gamma qui sont à des distances cosmologiques où on s'approche en fait des premiers âges de l'univers, plusieurs centaines de millions d'années après le Big Bang. S'agissant des supernovas, le signal est beaucoup plus faible. Plus on va remonter loin, plus ça va être difficile de détecter une supernova parce que le signal est beaucoup plus faible.
Les sursauts gamma sont extrêmement intenses, mais aussi très brefs, quelques dizaines de secondes seulement. Heureusement, ils laissent une trace plus faible dans d'autres longueurs d'onde qui décroît progressivement. Dans le domaine des rayons X, le signal perdure quelques heures, et dans le visible, c'est une question de jours. Alors, comment étudier ces sursauts gamma? En France, ces observations se font grâce à la mission franco-chinoise SVOM. C'est un satellite placé en orbite basse autour de la Terre qui scrute des portions de la voûte céleste, et lorsqu'un sursaut gamma est détecté, il faut être extrêmement réactif. Le 14 mars dernier à 13h, le satellite perçoit le fameux flash gamma. Il alerte alors les astronomes d'astreinte et positionne en quelques minutes ses télescopes vers le lieu d'émission. Une vingtaine de minutes plus tard, le temps de confirmer l'observation, un message d'alerte est lancé à toute la communauté scientifique. D'autres satellites et télescopes au sol joignent alors leurs forces et c'est l'accumulation de toutes ces données qui a permis de convaincre le Very Large Telescope de se rediriger et de se joindre à l'effort. C'est en partie grâce à ce télescope géant qu'on sait que le sursaut gamma s'est produit alors que l'univers n'avait que 730 millions d'années. Il est âgé aujourd'hui de plus de 13,8 milliards d'années.
Et ça nous indique que la lumière en fait, qu'on venait de recevoir sur tous nos détecteurs avait voyagé pendant presque 13 milliards d'années. On était là, effectivement, en train d'observer un sursaut excessivement lointain qui s'approchait finalement de la mort des premières générations d'étoiles. Et donc ça nous donne plein d'indications. D'abord, ça nous donne distance, donc ça nous donne aussi une idée de l'énergie en fait qui était intrinsèque au niveau de l'objet qui s'est effondré. Et puis, le spectre qu'on a mesuré peut nous donner des indications sur la matière primitive formée autour du sursaut à l'âge de l'univers, c'est-à-dire 730 millions d'années après le Big Bang. C'est quasiment la seule méthode pour avoir une mesure directe des conditions physiques de l'univers à cet âge-là. Alors, à cette distance, c'est le troisième pour lequel on fait une mesure spectrale de qualité. Et dans les trois exemples qu'on a, ce sursaut-là est la mesure pour laquelle on a la meilleure statistique dans le spectre.
Il aura fallu attendre 17 heures pour mettre toute la machinerie en branle. C'est rapide, mais pas assez. Bien que les données soient de la meilleure qualité à ce jour, c'est encore un petit peu faible. Et on ne peut pas encore faire des mesures précises des conditions physiques de l'univers à cet âge-là. En revanche, 110 jours plus tard, une fois que toute la lumière du flash s'est dissipée, les astronomes ont pu observer la supernova émettrice. C'est la plus lointaine jamais observée et c'est probablement la première fois qu'on voit exploser l'une des premières étoiles de l'univers, celles qui sont à l'origine des éléments chimiques présents dans la nature.
Merci beaucoup Alexandre Morales, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD à la technique aujourd'hui. C'était Guillaume Ficheux. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD. Et en attendant, gardez le bon cap. Il y a toujours une terre de science en vue.